à tous et bienvenue autour de votre grande table. À partir de 12h55, retour sur le moment populiste que nous traversons avec le sociologue Federico Tarragoni, auteur de l'esprit démocratique du populisme à la découverte et retour aux sources aussi théoriques et politiques de ce concept, utilisé un peu à tort et à travers aujourd'hui pour tenter d'en cerner les réalités nouvelles. Mais d'abord, après La légèreté, son précédent roman graphique, La flamboyance, celle du peintre Eugène Delacroix, auquel elle consacre un livre à partir d'un texte d'auteur, et pas n'importe quel auteur, une causerie d'Alexandre Dumas. Ses planches seront par ailleurs exposées à la galerie Barbier-Maton, dans le 9e à Paris, à partir du 13 décembre. La dessinatrice Catherine Meurice est notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture, si vous le souhaitez, ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Et c'est chez Dargaud, après Mozart, Diogène ou encore Raymond Queneau, elle met en mouvement les mots de Dumas, l'auteur du Comte de Monte-Cristo, auteur aussi d'une causerie sur Delacroix, sortie en 1864. Bonjour Catherine Meurice.
Bonjour Olivia Jesbert.
C'est un peintre haut en couleur d'un côté, un écrivain fort en mots de l'autre. Comment vous avez choisi de les représenter l'un et l'autre, de les réunir dans cet album ?
Alors d'abord, c'est Dumas qui s'inclut, enfin qui s'accole à Delacroix en écrivant et en disant cette causerie qui est un discours qui a été prononcé en 1864, c'est-à-dire un an après la mort de Delacroix. Il a fait ça devant un public et réuni devant les toiles de Delacroix. C'était un hommage. Et ce petit texte, Causerie sur Delacroix, a été publié il y a longtemps chez un petit éditeur. Il y a 15 ans, j'étais tombée dessus par hasard en librairie. J'ai vu ce petit bouquin. Sur la couverture, il y avait le tableau La mort de Sardanapale de Delacroix. Et j'aime ce tableau depuis que je suis gamine. J'ai acheté le livre. Je me suis plongée dans Dumas. Je pense que Dumas, vraiment, on plonge dedans, dans ses romans historiques comme dans ses causeries. Et ce texte ne m'a pas quitté. Voilà, donc je me suis faufilée entre les mots de Dumas et les peintures de Delacroix.
Et c'est vous qui accolez aujourd'hui Dumas à côté de votre nom, Meurice.
Oui, alors ça c'est quelque chose qui me fait personnellement beaucoup rire. C'est-à-dire que ça fait quand même un petit bout de temps que dans mes albums de bande dessinée, je parle des artistes et des écrivains que j'aime, je les réunis, j'en fais des cousins, des frères, j'en fais une famille, je m'amuse avec, je les fais descendre de leur piédestal tout en leur déclarant ma flamme. Donc ça, c'est dans Mes Hommes de Lettres, Le Pont des Arts, Moderne Olympia. Et donc, mettre mon nom à côté de celui de Dumas, c'était vraiment un clin d'œil à cette démarche que j'ai de faire entrer vraiment les grands auteurs, les artistes qui peuvent faire peur, hein, de les faire entrer dans nos vies, de se débarrasser un peu de tout le poids académique, etc. Ce sont des personnes qu'on voit dans les grands livres d'histoire. Bon, ben en fait, ils nous servent au quotidien. Ils sont avec nous au quotidien, en pensée. Donc c'était pour mettre une petite touche d'humour, ou plutôt pour prolonger cette veine humoristique qu'il y a dans mes albums.
Mesdames et messieurs, il commence comme ça, Dumas, ces mots, ce texte sur Delacroix. Et en disant cela, il vous apostrophe et il nous interpelle tous. J'aurai plaisir à vous parler de Delacroix, à faire revivre devant vous cette puissante personnalité, à rendre le mouvement de ce peintre étrange, plein de défauts impossibles à défendre, plein de qualités impossibles à contester, qui sauta par-dessus le talent pour arriver au génie et pour lequel amis ou ennemis, admirateurs ou détracteurs peuvent s'égorger en toute conscience, car tous auront raison. Ceci d'aimer, cela de haïr. On a du mal à penser que Delacroix a pu être un peintre clivant à un moment donné.
Et si, bien sûr, oui. Ce qui est étonnant chez Delacroix, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une maturité dès le départ, qui était vraiment sûr de sa peinture, et il a démarré très fort en présentant au salon, donc c'était le salon au Louvre, c'était l'équivalent d'une biennale, hein, d'art à l'époque. Il a démarré très fort en présentant sa barque de Dante, qu'on peut voir au Louvre aujourd'hui, qui a eu du succès, mais en même temps qui dérangeait un petit peu les spectateurs parce que c'était nouveau, et puis surtout ce qui a choqué vraiment le public, c'est ça, la fameuse mort de Sardanapale dont je parlais tout à l'heure, qui a été présentée un peu plus tard tard, et là où Delacroix, en gros, peint ce qu'il aime vraiment et tord les corps, la perspective. Alors ça a été détesté par le public, qui s'est dit, les mots sont repris dans la causerie de Dumas. Le public a dit, mais Delacroix peint avec un balai ivre, c'est pas de la peinture, etc. Non, Delacroix en a bavé. Vraiment, aujourd'hui, c'est un peintre qui nous est plutôt familier. Il y a eu une expo extraordinaire l'an dernier au Louvre. Mais ça a été compliqué pour lui. Et ce qui est formidable avec Dumas, c'est que il nous raconte cette histoire-là. Dumas n'est pas un historien de l'art, c'est pas un critique d'art. Il a pas la patience du chercheur. Donc il raconte Delacroix et la peinture et l'époque comme s'il racontait les Trois Mousquetaires, en fait. Et donc cette voix très bonhomme, très sympathique, il provoque la sympathie, vraiment. En fait,
il est presque le meilleur avocat que Delacroix pouvait se trouver.
Hein. Exactement. Oui.
Delacroix est éminemment lui. On ne retrouve dans Delacroix le souvenir d'aucun maître, pas même du sien. Vous dites Dumas, pas critique d'art, plutôt critique d'homme, au sens positif du terme, avec des qualités, celles du peintre, qu'il va réussir à mettre en avant. Peut-être plus, justement, la part de l'homme que la part de l'œuvre. Mais il avait cette façon gourmande de parler des autres, peut-être aussi c'est ce qui le rapproche de Delacroix, qui avait lui une gourmandise des couleurs, du geste, du mouvement. C'est un duo d'ogres que vous avez rassemblé dans ce roman.
Exactement. Delacroix, par ailleurs, je crois que c'est le peintre qui a le plus écrit. Il a son journal qui est resté très très célèbre, et puis il a écrit énormément de lettres, de textes. Finalement il a été peintre, mais oui, ce sont deux ogres. Alors physiquement, Dumas était plus, hein, c'était une sacrée carrure. Delacroix était plus petit, plus frêle, plus austère, mais tous deux très très généreux à leur façon. Dumas, évidemment, avec ses romans qui n'en finissent pas, dont les rebondissements sont infinis, et Delacroix avec tout ce qu'il a pu faire de peinture historique, religieuse, de portraits. Enfin, tous deux étaient contemporains, avaient presque que le même âge. Dumas était un tout petit peu plus jeune. Oui, ce sont deux immenses personnalités, et leur œuvre est tellement vaste qu'on s'y balade. Vraiment, on a de la place, quoi.
Et alors, comment vous les avez dessinés? J'en reviens à cela. Comment vous les avez représentés? Vous avez mis du temps à trouver le bon trait, la bonne silhouette, la bonne forme, parce qu'il y a aussi quand même dans ces deux personnages que vous représentez là, et on ajoutera aussi que dans ce roman graphique, il y a tout un mélange des genres, il y a aussi de la peinture, c'est un mélange entre peinture, aquarelle, BD, dessin, caricature aussi, avec beaucoup d'humour. Comment vous les pensez? Vous êtes plutôt inspiré de caricaturiste comme Daumier au 19e, ou plutôt d'un Sempé aujourd'hui? Comment vous avez cherché à la fois à mélanger les traits d'époque?
Alors, je m'inspire toujours de ce qui est très loin de moi. Sempé est proche. Sempé, il est là, il est toujours là, et son œuvre est formidable et je l'admire. Mais quand je dessine, je vais voir ce qu'il y a vraiment beaucoup plus loin, quoi. Il y a un siècle ou deux, même encore plus loin. Donc, je me suis inspirée des caricatures du 19e, des peintures, et puis aussi de la photo, parce que on connaît les visages de Dumas et de Delacroix. Ils sont des portraits absolument magnifiques, on peut voir à Orsay d'ailleurs. Et je me suis documentée, et puis c'est venu assez facilement sous la plume, parce que le ton de Dumas, ses mots, tout de suite amènent vers une certaine rondeur. Et Delacroix, au contraire, ses œuvres très, son coup de patte fougueux, son geste fougueux amène vers quelque chose de plus sec, de plus pointu. Et puis, comme je suis caricaturiste depuis un moment, j'ai appris ça à Charlie Hebdo. C'est venu assez vite sous la plume, et avec bonheur, quoi.
Voilà. Et Delacroix fait des vagues, hein, avec son corps. Vous le dites, il a ce port un peu altier, ce port de tête aristocrate raffiné, mais vous l'animez presque, hein, en le dessinant, et on voit combien il s'emporte quand il est devant sa toile et quand il peint, tandis que Dumas, comme on le retrouve dans ses mots et dans la tonalité de ce texte, il a quelque chose de beaucoup plus enrobant, de beaucoup plus protecteur, de plus rond, voilà, ce qu'était peut-être l'homme aussi. La liberté guidant le peuple, impossible de passer à côté, c'est une œuvre iconique de Delacroix, multi-reproduite, voire détournée. Delacroix, homme du peuple, républicain furieux, à l'image pour vous, Catherine Meurice, de l'homme à l'espingole sur ce tableau.
Alors c'est drôle. Alors je ne pourrais pas parler de la liberté guidant le peuple comme une historienne de l'art ou comme une conservatrice du Louvre, mais en tout cas Dumas en parle de ce tableau et c'est assez amusant parce que
c'est une allusion qui le fait sourire, hein, d'imaginer Delacroix
exactement,
en homme du peuple.
Voilà, on a longtemps cru que Delacroix s'était représenté parmi le peuple, donc qui est autour de cette femme qui incarne la liberté. On peut voir dans le tableau, et en fait pas du tout. Dumas dit que Delacroix et lui se sont toujours bien entendus en ce qui concerne la peinture, la littérature, mais en politique ils n'étaient pas du tout d'accord, quoi. Et Delacroix n'était pas un homme du peuple, il était issu de la, c'était quelqu'un d'aristocrate et conservateur. Et Dumas le dit avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance que Delacroix a fait un tableau plus républicain que lui. Et Delacroix, par ailleurs, le dit, je le reproduis ça dans l'album, que s'il n'a pas lutté, manifesté pour la patrie, au moins il a peint pour elle, quoi.
En peignant pour la patrie, il a peut-être aussi fait autant, si ce n'est plus, que les historiens de la Croix. Hein. Les artistes sont partie prenante du grand récit national, hier avec de la Croix comme aujourd'hui, pour vous, Catherine Meurice.
Oui, et je crois que c'est d'autant mieux quand les artistes n'y... Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, quand les artistes n'y réfléchissent pas avant. C'est-à-dire quand ils sont dans leur bulle, devant leur chevalet ou leur table à dessin, et qu'ils pense d'abord à ce qui les traverse et à ce qui les bouleverse et quand ça sort, quand l'œuvre est produite, à nous spectateurs d'y voir une lecture de l'histoire passée ou contemporaine et voilà, j'ai plus de mal avec les artistes militants dont les œuvres seraient réfléchies pour être militantes. Là en tout cas la liberté c'est finalement elle a été plus militante que Delacroix et j'aime bien cette idée que les œuvres dépassent les artistes et nous bouleverse et nous guide tout simplement. Oui.
On va écouter un témoignage de visiteur face à la liberté guidant le peuple. C'est un extrait d'une émission de Sonia Krundoun, Les Pieds sur Terre, diffusée une première fois en 2010.
Quand j'étais gamin, ça illustrait les passages d'histoire. Et là, en étant un peu plus grand, je me dis que c'était balèze, quoi. Non, mais ce qui est... Moi ça me... Je m'arrête un peu plus parce que Marianne est quand même presque à poil, quoi. Voilà, et elle les mène au combat un peu comme Jeanne d'Arc. Elle est puissante, quoi. Elle est forte et... je la vois dominante, c'est un peu la mère, la femme, le père... le commandant, elle va gagner, elle est convaincue d'elle et elle y va de son âme, de son corps, de toutes ses entrailles, quoi. Elle y met toutes ses tripes.
Beau portrait de femme à travers le témoignage de ce visiteur qui petit à petit la découvre et se l'approprie presque, hein, cette femme, cette Marianne coiffée de son bonnet phrygien, cette allégorie de la liberté. La fratrie entre Dumas et les peintres, entre Dumas et Delacroix, vous la racontez, vous ici, Catherine Meurice, est-ce que vous vivez ou ressentez une sororité avec cette femme du peuple, cette femme libre et libérée telle qu'elle était décrite à l'instant de la liberté guidant le peuple?
Ah oui, totalement, et d'ailleurs je reprends les mots de Dumas, donc qui sont écrits dans l'album que j'ai reproduit. Dumas écrit cette liberté, donc peinte par Delacroix, ce n'est pas la liberté classique, c'est une fille du peuple qui combat pour ne plus être tutoyée, outragée, violée par les seigneurs. Et quand j'ai fait cet album, donc cette année, ces phrases ont résonné différemment. Vraiment, de voir le mot violée, ben il prend un sens aujourd'hui, évidemment à l'ère MeToo. Voilà, ces phrases ont résonné très différemment. Moi, j'ai eu l'impression de ne pas me contenter d'illustrer un texte du 19e, mais en fait de parler de quelque chose qui est très présent aujourd'hui. Et c'est vrai que cette femme, cette liberté seins nus qui guide les hommes. C'est une héroïne très contemporaine, oui, ça me plaît beaucoup.
Et comment vont se jouer en vous les différentes couches de lecture qui vont naître aussi face à ces tableaux et à ces œuvres? Parce que vous avez eu aussi envie de le parodier, cette liberté guidant le peuple, pourquoi?
La parodie, c'est-à-dire que Dumas et même Delacroix m'autorisent à les parodier parce qu'ils donnent envie d'être libre. Donc c'est vrai que je me suis appuyée sur le texte de Dumas que je reproduis. J'ai regardé les tableaux de Delacroix que je reproduis, que j'interprète. Mais je suis totalement libre en faisant ça. Donc en cela, j'ai l'impression d'être une bonne élève de Delacroix et une bonne lectrice de Dumas. Donc c'était facile en quelque sorte de réaliser cet album, d'autant plus que j'avais abordé ce texte il y a très longtemps. J'en avais fait une version très noir et blanc, très radicale, où j'avais fait à l'époque un travail de recherche assez érudit il y a 15 ans. Et là, j'ai repris ce texte que je remets en couleur, que je me suis vraiment autorisé la peinture. Là, je voulais que ce soit flamboyant. J'avais un désir de couleur, de peinture immense. Et j'ai pas replongé dans l'histoire littéraire pour travailler cet album. C'est comme si j'ai utilisé ma mémoire ou ce qui restait de ce que je savais de Dumas et Delacroix. C'est comme si j'avais enlevé mes lunettes et que je voyais un petit peu flou. Et là, je pouvais m'autoriser dans ce flou artistique à être totalement libre et à ne plus m'encombrer de tout ce qui est ce savoir très très pointu, politique, artistique, etc. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai fait cet album, avec surtout un goût, vraiment un désir de peinture et le désir d'avoir les coudées franches. Et en ce sens, ce livre de la Croix fait suite à, enfin, comment dire, est un livre post Charlie, post attentat contre Charlie, où j'ai fait La Légèreté, vous le mentionniez tout à l'heure, La Légèreté qui raconte comment j'essaie de tenir debout après l'attentat contre Charlie. Et déjà dans La Légèreté, l'art s'invitait, je me représentais en train de traverser les tableaux et j'avais été frappée parce que certains lecteurs avaient retenu ces images, en fait, ces pleines pages de couleurs, et m'avaient dit mais c'est très intéressant, c'est la peinture qu'il y a dans votre album. Et j'y ai repensé en faisant de la Croix. Je me suis dit, oui, en fait, ça me correspond. J'ai envie de ça. Et La Légèreté que j'annonçais en titre en 2016, elle est présente dans ma pratique de la peinture, la légèreté et la liberté.
C'est-à-dire que pour vous, la parodie est à la fois, ou peut-être plus encore, une révérence à ceux que vous admirez, à ceux qui vous ont nourri ou apaisé.
Exactement.
Presque plus encore qu'une irrévérence, même si l'acte l'est en lui-même.
Exactement. Vraiment, je crois que je passe mon temps à me moquer des... des gens que j'aime, peut-être parce que c'est peut-être aussi une forme de timidité. Vous savez, les grands timides approchent les gens qu'ils admirent avec des chaussures de clown qui font beaucoup de bruit en marchant. Mais oui, c'est ma façon d'admirer, de dire mon admiration et tout mon amour pour ces gens mais alors que ce soit Delacroix, Dumas ou Cabu et tous les autres, hein, vraiment pour dire à quel point je les aime et à quel point ils me font grandir. Ouais.
Lover, don't you come down without a sword or a gun. For the gold and the silver you're searching is hidden out there underground. But there's a beast on the cloak, guarding against the foe. And the ghost from the river is watching, she won't let you get any close. It was just an American dream. It was just an American dream. There's no catching your breath. There's no rest till you're dead. There's no heaven or hell. There's no running away.
Le Kenyan J.S. Ondara, extrait de son premier album Tools of America, qui sera l'une des révélations du Blue Note Festival. Il sera d'ailleurs en concert à l'Élysée Montmartre le 27 novembre. Un Blue Note Festival qui commence lundi jusqu'au 30 novembre et vous pourrez y voir, y entendre, y écouter Gregory Porter, Madeleine Peru, Ben l'Oncle Soul ou encore Thomas Dutronc. Plein de beaux invités pour ce festival qui a lieu ici à Paris.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Pas forcément de rêve américain pour vous, Catherine Meurice, comme le chantait à l'instant le Kenyan J.S. Ondara, mais un rêve artistique. Vous l'avez, semble-t-il, en partie réalisé, ce rêve réparateur, en vous rendant quelque temps à la Villa Médicis, après l'attentat de Charlie Hebdo. Villa où vous avez séjourné et qui porte encore, elle, la marque de son ancien directeur, le peintre Baltus, qui avait dirigé la maison dans les années 60, où se sont croisées aussi des générations d'artistes et de mécènes. Une villa posée là sur les hauteurs de Rome, non loin de la Villa Borghese, elle aussi temple de l'art. Se retrouver au cœur de tous ces artistes qui partagent mille manières de raconter le monde, pour vous, ça c'est quelque chose qui vous a permis aussi de retrouver place dans une collectivité, dans une petite société, dans une famille.
Oui, exactement. C'est exactement ça. La famille Charlie avait explosé en janvier 2015 et 10 mois après, je me retrouvais dans une autre famille d'artistes que je ne connaissais pas, que je découvrais et qui ne pratiquaient absolument pas le dessin de presse ou l'illustration ou la BD. Enfin, c'est ce que je voulais en fait, d'autres personnalités, mais qui avaient de l'humour et là je parle des pensionnaires de la villa fin 2015 et qui m'ont aidé à retrouver le sourire vraiment et leur bienveillance et leur bonne humeur, surtout leur pratique artistique était toutes très très différente. Ça allait du graffiti au design. Ça me faisait du bien de voir des artistes au travail. J'avais besoin de ça pour me remettre sur pied. C'est ce que je raconte dans La Légèreté. Et c'est vrai que j'ai fait un passage éclair à Médicis, mais qui m'a éclairé pour le coup complètement. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, je m'y attendais pas, mais il y a une expo en ce moment à la Villa Médicis qui s'appelle Une Antiquité Moderne, dont les commissaires sont Jean-Luc Martinez, le directeur du Louvre, et Elisabeth Le Breton, conservatrice des antiquités grecques et romaines au Louvre.
Avec des dessins de vous.
Et voilà, il y a 4 planches de Légèreté qui sont exposées en ce moment à Rome. Et alors ça, je m'y attendais pas.
Cabu, Wolinski, Tinius et tous les autres. Il y a cette tribu des Charlie qui continue à veiller sur vous. Et vous l'évoquiez dans La Légèreté en introduction. Philippe Lançon a ces mots si justes sur vous, sur votre dessin. Ton talent n'est ni intact ni alourdi. Il a pris du poids en légèreté et en douceur et en arrondi. Ce qu'on retrouve dans ce Delacroix qui paraît chez Dargaud. Ce changement de trait, est-ce qu'il révèle aussi un autre regard que vous portez aujourd'hui sur le monde, Catherine Meurice?
Probablement, c'est-à-dire que pendant mes 12 ans à Charlie, c'est vrai qu'on a dessiné plus vite que notre ombre, quoi. Il fallait courir après l'actualité, dessiner vite, donner des gifles, donner des claques aux puissants. Et ben ça se voyait dans le dessin, hein. J'avais un dessin très 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 vif. On travaillait toujours dans l'urgence et donc l'attentat a arrêté tout ça, m'a donné vraiment un énorme coup sur la tête et j'ai arrêté de faire du dessin politique, du dessin de presse, et en me consacrant plus à la bande dessinée et aussi à certaines illustrations, ben j'ai le temps maintenant, parce que le rythme est très différent, le rythme du dessinateur de presse et celui de l'auteur de BD est très différent. Et j'ai le temps maintenant de, oui, d'observer différemment les choses et de dessiner un peu différemment. Alors ça se ressent dans mon trait qui s'est un peu arrondi, qui s'autorise donc la peinture. Et bon, c'est pas un trait qui se regarde dessiner, hein, j'espère pas, je crois pas, parce que ça, de toute façon, j'ai appris à Charlie hein, qu'il fallait surtout pas se regarder dessiner. Mais je crois que je m'autorise une certaine poésie. En tout cas, c'est ce qu'on me dit quand voilà mes livres sont publiés. Et la poésie, c'est un mot qui m'a enfin, c'est pas qui m'a fait peur, mais enfin je m'intéressais pas vraiment jusqu'ici. Et finalement, je me dis tiens, peut-être que je peux aller vers ça. Et pourquoi pas? Peut-être que ça me caractérise aussi.
Ça peut devenir, c'est ça, votre marque de fabrique, comme la couleur était celle de Delacroix en Croire Dumas. Il donne le vertige de la couleur avec son pinceau étrange, magique, fascinateur, comme il le décrit, et qui produit cet effet inconnu. Vous serez aussi cette année la marraine, ou l'an prochain, en 2020, la marraine de l'année bande dessinée avec Jules, le père de Silex, and the City, et Florence Sestac, la mère des Déblocs et des ados Laura et Ludo, qui à elle s'est grônée comme marque de fabrique. On gardera peut-être ce trait de plume, cette légèreté pour vous, cette poésie aussi, dans le dessin. Vous signez aussi l'affiche du prochain festival d'Angoulême, qui aura lieu du 30 janvier au 2 février. Une enfant qui lit Astérix. Pour la première fois, nous, à France Culture, à l'occasion des 60 ans d'Astérix, il va y avoir une adaptation en bande dessinée de cette bande dessinée en fiction radiophonique. Et ce sera La Cisanie, le 15e album de la série Astérix le Gaulois de Goscinny et Uderzo, paru en 70, qui a été retenu. Vous, pour l'affiche, vous avez choisi La Grande Traversée. Pourquoi? C'est la quête de ce nouveau monde aussi.
Là aussi, c'est plein de sens. Pour moi, c'est en effet, je représente cet enfant. Alors, c'était ça là, le cahier des charges. Il fallait se représenter enfant en train de lire sa première bande dessinée. Donc, je représente une enfant qui me ressemble, avec toujours la même coiffure, celle qu'on peut voir dans la BD Les Grands Espaces. Elle est sur une barque en train de lire très tranquillement La Grande Traversée, donc mise en abîme. Et il y a un chien qui ressemble à un boxeur. On y voit surtout son postérieur et c'est une sorte d'idée fixe revisitée. Et oui, le décor est assez romantique d'une certaine manière. J'ai mélangé, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, je mélange la peinture, mes inspirations donc qui viennent de la peinture romantique à quelque chose de beaucoup plus caricatural, Gronet. Et oui, La Grande Traversée, bah, c'est toute une histoire, hein surtout depuis 2015. Voilà.
On vous laisse être douce, en tout cas, pour le Merci. Cap, celui vers lequel vous allez, Catherine Meurice. Vous co-signez donc avec Alexandre Dumas ce Delacroix qui paraît chez Dargaud. Enregistrement en public au studio 104 de la Maison de la Radio ce week-end, samedi 23 novembre à 17h et 20h30 de cette fiction Astérix qui sera diffusée pour les auditeurs de France Culture le dimanche 22 décembre à 21h. Venez, 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 il reste de la place. Très belle journée sur France Culture. Merci Catherine.
Merci.